Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur cette place Marcel Pagnol. Nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi Meriem Alaoui et Jean Beaufan. Bonjour à tous les deux pour une rencontre en duo autour de vos romans parus à la rentrée. Meriem Alaoui, La vérité sort de la bouche du cheval, c'est paru en blanche chez Gallimard. Et pour vous, Jean Beaufan, plus belle couverture de la rentrée littéraire, La Belle de Casa, paru chez Actes Sud. Alors, deux livres qui ont pour décor la ville de Casablanca, c'est le premier point commun entre vous deux, mais on va voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Meriem Alaoui, La vérité sort de la bouche du cheval est votre premier roman. Vous avez grandi à Casablanca et vous vivez, je crois, aujourd'hui à New York.
Oui, tout à fait. Hein, voilà. Bonjour.
Et donc, vous êtes de passage en France pour quelques jours. Alors, votre narratrice, Jmia, est une prostituée. Elle a 34 ans et elle vit seule avec sa fille. Alors, elle raconte son quotidien dans une langue très gouailleuse. Elle décrit son petit monde, ses amis prostituées, son proxénète, sa mère, très importante, hein, qui ignore tout de son activité. Il y a aussi son amoureux, ses clients, jusqu'à ce qu'arrive... Dans sa vie, Bouche de Cheval. Alors, Bouche de Cheval, c'est une femme, une jeune réalisatrice marocaine, mais émigrée en Hollande, qui veut faire un film sur la vie du quartier. Et la rencontre avec cette jeune femme va bouleverser la vie de Jmia. On va en dire un peu plus tout à l'heure. Jean Beaufan, vous êtes né en 1954 en République démocratique du Congo. Vous vivez à Bruxelles. Vous avez commencé par écrire des livres pour la jeunesse. Et vous avez publié chez Actes Sud deux romans avant celui-là, Mathématiques congolaises et Congo Inc., le testament de Bismarck. Alors, pour ce nouveau roman, vous quittez Kinshasa, votre ville, hein, pour aller précisément à Casablanca, dans un quartier populaire qui est très très proche de celui que décrit Meriem Alaoui. Et le cœur de ce roman, c'est une enquête sur la mort de la belle Ishraq, qui est retrouvée sans vie dans la rue. Et avant de mourir, elle s'était alliée à Cécé, un jeune clandestin congolais arrivé de Kinshasa, avec qui elle avait monté une affaire d'escroquerie sur Internet. Alors, on va plonger avec ces personnages dans la vie de ce quartier populaire où gravitent des escrocs, des policiers véreux. Voilà, tout ce petit monde est suspect. C'est une espèce de cluedo, au fond, hein, que vous montez autour de ce personnage d'Ishraq. Et puis, il y a un autre thème dans le livre, c'est la quête du père, puisque Ishraq a été élevé par sa mère et qu'elle ne connaît pas l'identité de son père. Alors, ce qui lie vos deux romans, c'est bien évidemment cette ville de Casablanca. Je voudrais qu'on commence par planter le décor, par faire un peu de géographie. Dans quel quartier se passent vos deux romans, puisque au fond, tout ça se passe presque dans un mouchoir de poche.
Tout à fait, en fait. J'ai pas encore fini le livre de Jean, mais j'en suis aux trois quarts. Tout d'abord, la couverture de Jean est vraiment la plus belle de la rentrée. C'est un artiste marocain qui s'appelle Hassan Hajji qui met en scène Kezia Jones sur la couverture et vraiment elle m'a interpellée, frappée.
Si. Ouais.
Et donc effectivement l'action se passe dans le même quartier en fait. On est au centre-ville de Casablanca qui est c'est le vieux centre-ville, l'ancien centre-ville européen qui a commencé à être construit dans les années 20 et qui a fini, on va dire, d'être construit dans les années 70. Et ce centre-ville est rattaché à la Médina dans laquelle se passe l'action de Jean. Et donc, c'est vrai que moi, en lisant ton histoire, j'ai reconnu mon quartier, j'ai reconnu l'activité. C'est un quartier qui est extrêmement animé, avec un foisonnement extraordinaire. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de détails.
Et vous êtes retourné, vous y immergez pour l'écriture du roman ou vivant à l'étranger, vous avez fait ça de mémoire ?
Alors non, pas du tout. Moi, en fait, j'ai habité dans ce centre-ville qui est l'un des rares quartiers où il y ait une mixité sociale à Casablanca, parce que sinon, en général, chacun vit de son côté. Bon, de temps en temps, il y a des enclaves comme ça, on trouve un bidonville dans un quartier huppé, mais en général, il n'y a pas de mélange. Et donc, j'ai vécu dans ce quartier pendant 7 ans, Et je m'y promenais beaucoup, j'y marchais beaucoup. Donc voilà, et comme c'est extrêmement dense, ben, chaque jour, on a au moins 10, 20, 30 histoires auxquelles on assiste.
Jean Beaufin, votre histoire avec Casablanca, elle s'est passée en deux temps. Il y a un premier temps de repérage sur carte, on pourrait dire, et puis ensuite oui, vous y êtes allé.
D'abord, il fallait écrire. Il fallait écrire d'abord. Et donc, je me suis concentré sur l'écriture uniquement, sur l'histoire, sur mon récit, et sur l'âme des gens, leurs ambitions, leurs envies, leurs désirs. Et ensuite, j'étais à Casa pour y mettre un décor. Je connaissais le Maroc un peu par Rabat, Oujda, Marrakech, mais je ne connaissais pas Casa. Mais je connaissais Casa dans la mesure où je suis très intéressé aux grandes villes. Les grandes villes m'intéressent, j'ai écrit sur Kinshasa avant, j'ai essayé d'écrire ça au mieux que j'ai pu. En passant au Maroc, je ne pouvais que m'intéresser à Casa.
Mais quitter Kinshasa, pour prendre un autre décor pour l'écriture de ce roman, ça voulait dire vous dépayser ?
Non, au contraire, je ne dépayse pas. Je voulais parler de cette Afrique du Nord. Mais en fait, j'habite à Bruxelles. Ça, c'est la première raison, c'est ça, en fait. Si j'habitais pas à Bruxelles, peut-être que je n'aurais jamais écrit ce roman. J'habite à Bruxelles, et là-bas, à Bruxelles, nous avons une grande communauté de Marocains. Et quoi que disent les Marocains, ou les Maghrébins en général, la première communauté africaine, parce que moi, j'aime l'Afrique, donc j'écris sur l'Afrique. Et je voulais rester en Afrique. Et quoi qu'ils disent, la première communauté africaine à Bruxelles, c'est, ou en Belgique, c'est les Marocains. Vous comprenez ? Nous, les Congolais, on constitue la deuxième communauté africaine. Donc je dis, on vit ensemble. C'est d'abord, avant d'écrire un roman, il faut d'abord être touché par quelque chose. Et il fallait que ce peuple d'abord me touche. Et bien, ils m'ont touché là, à Bruxelles. Le fait de manger ensemble, de dormir ensemble, de vivre ensemble. Il y a des interactions comme ça entre les Congolais et les Marocains, qu'on le veuille ou pas. Donc ça se passe. Et moi, ça fait quand même des années. À mon âge, la première fois, j'avais 10 ans, dans les années 60, quand je suis arrivé à Bruxelles et qu'il y avait une famille de Marocains dans ma commune. Donc ça veut dire que j'ai d'abord été touché par un peuple, d'abord. Et ensuite, bon, la démarche est un peu... Et je suis arrivé au Maroc, il y a ce peuple. Mais qu'est-ce que j'ai perçu chez ce peuple-là ? Je ne sais pas si Myriam va me... Je sais pas si elle peut me contredire. Mais moi, quand on m'a demandé chez Actes Sud la première fois, je me dis, mais pourquoi le Maroc ? C'était mon ancien éditeur, Marc Douvenet. Je dis, écoute, Marc, une fêlure. C'est tout ce que je lui ai dit. Il m'a dit, ok, fais-le. Voilà, une fêlure. Il n'y avait que ça au début. Il y avait quelque chose que moi, je ressentais chez mon frère à côté de moi qui... Vous savez, vous avez un récipient comme ça, et puis il y a une fêlure. Et il y a toujours quelque chose qui va sointer chez lui, que chez moi, ça ne va pas sointer, alors que je le sens que c'est mon frère, mais il a ça. Et... Avant d'être un artiste, je suis quand même un type qui réfléchit avant d'écrire. Je prends d'abord une thématique, je réfléchis comme un scientifique. Et je suis un scientifique, je prends un récipient, il y a une fêlure. Moi, je suis écrivain, j'arrive avec... Je vois cette fêlure, moi, la fêlure, je ne vais pas m'apesanter. D'où ça vient, je m'en fous, à la limite. Moi, je vais examiner les... En tant que scientifique, je vais procéder à une expérimentation. Je vais mettre une pression sur ce récipient, qui est un être humain. Et il y aura... Et quelque chose va sointer de cette fêlure. Ça peut être des larmes, du sang, un cri, un rire, des choses comme ça. Des choses comme ça qui sont fluides, c'est des fluides qui peuvent s'échapper. Et donc, à partir de là, on essaie de voir les réactions de ça. Et c'est ça le livre, en fait. Et il n'y a que là que je percevais ça sur cette terre d'Afrique. Pas plus au sud, c'est là que ça se passe. Donc je suis monté, et voilà, et c'est tout. Et aussi pour dire que non, nous sommes en Afrique, il y a ce Sahara qui est là, mais le Sahara, si ce n'était pas la colonisation, le Sahara, ce ne serait pas une frontière. S'il n'y avait pas les frontières du Mali, l'Algérie, le Sahara, c'était la plus grande autoroute du monde. Parce qu'on la traversait du nord au sud, on allait au Mali chercher de l'or, et des mecs venaient d'Israël amener du sel, du sel de la mer morte, et on l'amenait jusque dans les territoires du Sahel. Et les royaumes, il y a des familles qui ont vous trouvez le même nom à Bamako, vous trouvez le même nom là-bas, quelque part dans un village au Maroc. C'est ça l'Afrique. Et je voulais un peu rétablir ceci. Parce qu'on a besoin d'une Afrique forte et j'avais besoin du Maroc. Et j'ai pris le Maroc, moi, en tant que Congolais. Ben, c'est mon style qui est dans ce roman. C'est mon style de Congo INC, de mathématiques congolais. J'ai pris le Maroc et exprès, je l'ai mis au centre de l'Afrique. Et je vais voir comment on va se débrouiller. Et c'est tout.
Alors, on va reparler dans un instant de votre style, Jean Bofane. Meriem Alaoui, votre narratrice, Jumia, a elle aussi un style très particulier, une langue très particulière. Est-ce que c'est par là que vous l'avez appréhendé, ce personnage? Parce qu'elle a vraiment cette gouaille absolument incroyable.
Jumia est une Casablancaise d'adoption. Les Casablancais ont tous la tchatche. Ils ont un langage. L'arabe marocain est un langage qui est très, très fleuri, très imagé. En même temps, il y a beaucoup d'humour, très percutant. Voilà, je pense que c'est principalement. Je m'y rends à cette personnalité d'abord parce qu'elle a cette langue dans la tête, en fait. Elle vit l'arabe marocain et elle a une âme de Casablancaise, donc beaucoup de gouailles et elle est extrêmement dégourdie, un esprit entrepreneurial. Voilà, Casa, c'est vraiment une ville qui a, pour reprendre la fêlure et ce qui en sort, il y a du suc et il y danse.
Et précisons qu'il y a un glossaire hein, à la fin de votre livre, très très important. Peut-être on peut entendre la voix de votre narratrice.
Oui, tout à fait. Alors,
on voulait vous faire entendre le passage où Jumia fait une espèce de typologie de sa clientèle.
Oui, la typologie de sa clientèle. Alors bon, c'est peut-être un peu sombre comme passage. Le roman ne l'est pas. Hein. C'est un roman qui est plutôt. Moi, je dirais qu'il est gay.
Oui.
Hein, bizarrement, oui. On est dans. C'est un roman qui est gay parce que Jumia est une femme qui a beaucoup de caractère, une grande énergie, qui rit de tout. Bon, après, forcément, elle pratique un métier qui n'est pas des plus faciles et donc parfois, ça donne des choses un peu sombres comme ceci. Je ferme la porte. Allez, sur le matelas. Baisser le caleçon, m'allonger sur le dos, lever ma djellaba. C'est un rapide, ça va aller vite. Avec Samia dehors, je suis contente que ce soit lui et pas un autre. Le problème avec ce travail, c'est que tu sais jamais sur qui tu vas tomber. C'est pas la peine que je rentre dans les détails ni que je te raconte tout ce que je vois. Mais ici, je rencontre ce que tu peux imaginer et ce que tu ne peux même pas concevoir. Celui qui veut que tu l'engloutisses et qui s'accroche à ta nuque comme s'il ne restait qu'elle sur terre. De l'océan déchaîné où il se débat, il t'étouffe dans sa chair flasque et veut que tu boives la tasse pour lui. Dans son naufrage, tu es un radeau. Ni chair, ni sang, ni foin. Ramené à terre, il te laisse sur la berge saumâtre, écumant tes sales, et la marée te reprend. Un autre. Celui-là est furieux. Il a besoin de vider sa vigueur d'un jet long et dur dans toutes celles qu'il rencontre. Ta croupe est son dû. Dans sa cavalcade de flics zélés, il rue, frappe et déchire ton épaule. Dans ses champs, où il voit une foule qui l'acclame, ses mains te fouettent comme l'air que sa course soulève. Quand il a fini, son œil torve défie cette terre dont il est le maître. Mais lorsqu'il croise sa gloire poisseuse dans les siens, l'illusion se transforme en haine. Alors il cogne parce qu'il n'est que lui, torturé, ivre et seul. Un autre encore, qui promène sa saleté de fille en piôle. Au latex, il préfère les traînées jaunâtres qu'il laisse pour mieux le retrouver encore chaude chez une autre. Dans le brouillard de l'alcool, tu les as refilés sans y consacrer une pensée. Mais dans la nuit qui s'en tape, quand tu les grattes jusqu'au sang, tu as peur. Et le matin lave tout, et tu passes à autre chose. Quelques billets qu'une main incertaine défroisse. Le gamin qui l'étend veut laisser son innocence et ses joues qui en rougissent derrière la porte. Les histoires servies à ses copains ne suffisent plus à faire de lui un homme. Son torse qu'il peine à gonfler, ses lèvres tremblantes sous un presque duvet, sa langue que la peur assèche. Tu le regardes dans sa tentative de se ramasser. Tu veux lui dire que c'est un voyage sans retour, mais tu te tais. Tu l'aides même un peu à glisser et à perdre cette paix qui l'encombre. Tu les montes tous, le minable, le frustré, l'esselé, le fils de pute, le juste là, celui qui pointe l'ardeur de ta main pour sa joie faible et stérile, et celui dont aucun trou ne comble la haine, qui ne s'apaise qu'au son déchiré d'une tache brune et sang. Celui-là enfin, qui rachète dans ton ventre son inutile sueur. Damné, il ne mangera jamais à sa faim. Alors il mord dans ta chair, pour que ses dents, aujourd'hui au moins, lui servent à quelque chose. Et dans le râle de son haleine de soufre, il gicle son amertume sur ta joue et tes cheveux emmêlés. Ici, tu rencontres celui qui chaque jour boit sa honte et qui, le soir venu, te fait vomir la tienne dans des toilettes sales et l'excuse d'un vin frelaté. Mais au fond, tu te fous bien d'eux, de leur misère et de leur crasse, parce que tu sais que c'est comme ça et que sur cette terre, chacun son lot. Alors moi, dans la besace pourrie du sort, je me sens juste bénie quand j'en tire un rapide. »
Merci, Maryam Alaoui.
Mais, cette scène, je voulais parler, hein, ce truc qui... Je ne m'attendais pas à lire ça, parce que je l'ai lu, je suis aussi aux trois quarts. Et je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi spontané, d'aussi brut. Vous voyez, un langage où il n'y a pas, chez moi je maîtrise mon truc, là, elle, il n'y a pas. Et le personnage, Jmia, elle peut dire non à quelque chose, puis quatre lignes après, elle dit oui. Vous comprenez ce que je dis?
Oui.
Ou bien elle dit oui à quelque chose, ou bien un truc, ah, j'aime pas ça, le mec veut l'emmener, je ne sais pas où. Elle dit bon, ok, mais bon, mais ça va lui coûter un pont, quoi. À la fin de la soirée, donc elle est tout le temps dans le... Voilà, ça, elle retient rien, quoi, cette femme.
Oui, elle est complètement dans... C'est une impulsive.
Et voilà, il y a ce truc.
Elle a ce côté très marocain, voilà, où il y a un tempérament, voilà. En fait, méditerranéen, où voilà, on dit un truc, voilà. Et ensuite on revient dessus.
Voilà, ouais, c'est tout le temps, quoi, c'est tout le temps dans le... Voilà.
Il y a aussi, Jean Beaufin, dans votre livre, un personnage de femme libre. C'est la victime, hein, de ce crime qui est commis au début du livre. C'est Ishraq. Alors, c'est une femme très belle, c'est une femme très libre, autour de laquelle tous les hommes tournent comme autour d'un pot de miel. Et elle est, au fond, victime de cette société patriarcale. Mais alors, ce qui relie vos deux personnages, c'est vraiment on s'en sort par la combine.
Parce qu'il faut.
On s'en sort par la débrouille, en fait. Il y a cette énergie-là.
Il y a cette énergie-là, mais c'est une énergie spirituelle, presque cérébrale. C'est quelque chose... Je connais ça, Kinshasa. C'est pour ça, vous savez, quand je parlais à mes frères, je vais écrire un bouquin sur quelle ville, Maroc, Casablanca. Les Marocains ont dit, mais écoute, Casablanca, c'est tellement dur. Je dis, venez à Kinshasa, les mecs. Vous comprenez, je veux dire. Et c'est là que moi, en tant qu'écrivain, je peux trouver de la matière, parce qu'il faut aller, il faut être. Tout est paroxystique. Tout doit être exagéré, sinon on ne tient pas. Elle fait un sale métier. Hein. Là, c'est, même ce, parce qu'elle dit c'est un passage sombre. Mais à la limite, la façon dont elle dit, elle vous balance ça comme ça. Elle n'a pas le temps de se lamenter sur elle-même. Elle n'a pas le temps. Demain arrive. Elle a besoin de gagner l'argent demain. Ouais. Et Kinshasa, c'est comme ça.
Mais c'est ça, en fait. Une des choses qui nous relie, c'est cette débrouillardise.
Ouais.
On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser des questions. Dans la vraie vie, on a besoin de manger. Et chaque jour, il faut trouver un moyen de le faire. Et on monte des combines. On se prostitue. On fait des trucs. Et on n'est pas là à s'apesantir.
Voilà.
Pourquoi je fais ça? Ma vie est triste. J'ai pas le temps pour ça.
Ah, forcément, nos romans sont toujours quelque part gay, alors qu'on parle de tragédie.
Alors que vous décrivez une misère sociale noire.
Terrible.
Oui, on décrit une misère sociale noire, peut-être, mais enfin bon, on est dans la vie. Donc dans la vie, il y a toujours de l'humour, il y a toujours de la joie, même quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est, il y a de l'humour, il y a de la joie.
Alors Jean Beaufin, je voudrais qu'on fasse connaissance avec votre personnage masculin, ce jeune clandestin congolais, Cécé. Est-ce que vous voulez bien lire un passage?
Oui, parce qu'il y a un jeune Congolais, c'est lui le narrateur en fait, de l'histoire, parce que Ishraq est mort dès le début. Donc c'est à travers lui qu'on suit la vie d'Ishraq. C'était une amie. Donc là... Là, il débarque au Maroc. Il vient d'arriver au Maroc, mais en fait, il a été roulé par un pêcheur qu'il a débarqué au Maroc. Il voulait être à Deauville, en France. Quelques mois plus tôt, assis sur son sac au bord d'une route, Cécé n'en croyait pas ses yeux. Pourtant, le panneau publicitaire au-dessus de lui ne pouvait mentir. 5 mannequins habillés en hôtesse de la Royal Air Maroc, un foulard Jean Hermès au cou, le pointait du doigt en arborant des sourires éclatants, vantant par leur présence des promotions sur tous les vols avec un slogan en arabe et en amazigh dansant autour d'elles comme des guirlandes. Pas de doute, Cécé était au Maroc. Ce paysage ne ressemblait pas à un paysage normand, s'était-il dit, même s'il ne connaissait pas grand-chose à la géographie de la France. Et pourtant, c'est bien là que ce salopard de Farès Lefouili, c'est ainsi qu'il s'était présenté, avait promis de le déposer. Cécé en aurait pleuré de rage. Il aurait dû se méfier de ce type aux airs de gentil garçon. Le jeune homme n'avait rien vu venir. Il s'était rencontré à Dakar, à une table du Balajo, un petit restaurant avenue Cheikh Anta Diop, pas loin du port. Sourire trop gentil, voix douceureuse, une tête de bébé, des cheveux bouclés, quasi blonds. Cela aurait dû réveiller sa méfiance, on aurait dit un blanc. Ils n'ont pas pitié, ces gens-là, venait-il de se remémorer. Le type s'était dit marin sur un sardinier qui allait appareiller dès le lendemain. Cécé venait de lui révéler qu'il comptait rallier l'Europe et qu'il avait fui le Congo à cause des problèmes politiques et de la guerre. Tout le monde fuit de nos jours, même les sardines. Il avait d'abord parlé de la conjoncture économique difficile à cause des bateaux-usines qui écumaient tout sous leur passage. Des monstres, des Japonais, des Russes. Alors les sardines, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent? Elles fuient l'Algérie. En croyant trouver par ici, on a juste pêché quelques anchois, des méduses. Quand les pilchards ont vu nos têtes et comme on avait faim, ils sont sortis des filets, ils ont replongé, je te jure. Demain, on se tire. On est venu pour rien. Santé. L'homme avait levé son verre et bu. C'est fille de même. Tu connais Deauville ? Avait-il demandé après le troisième verre. Demain, on quitte ici, direct Deauville. Là-bas, il y a tous les poissons que tu veux. Des rascasses, des truites bleues, des mangoustans. C'est en Normandie, à Francia. Putain, qu'est-ce que tu me dis là ? Avait demandé Cécé, déjà excité, les yeux dans les yeux de Farès. Le jeune homme, ne sachant pas nager, avait tout de suite pensé que c'était l'occasion d'éviter la noyade et la pirogue made in Sénégal qu'il avait prévu de prendre pour gagner l'Europe. Les deux hommes avaient alors négocié une place dans la cale du bateau pour un montant de $500 et après quelques salamalecs encore, conclu d'une poignée de main pour 400. Farès avait été élégant et n'avait même pas insisté pour un acompte. « Sans ma mère, là-bas, tu seras bien », avait-il ajouté comme une clause à leur contrat. « Mon frère Yacide, il travaille à l'ambassade d'Algérie à Deauville. Il va t'aider. » « Il fait quoi ?» l'ambassade avait demandé Cécé. « Il fait tout !» Quand Cécé avait embarqué, l'Algérien lui avait pris près de la moitié de son argent en dollars. La sorte de cachot qu'il lui avait offerte était un réduit dans la cale du sardinier. Il ne pouvait même pas s'y allonger complètement. Le voyage lui avait paru long, mais finalement, il ne l'était pas assez, car une nuit, Farès lui ouvrit la porte. Après lui avoir fait ramasser son sac, il le pressa le long d'une coursive déserte, puis vers un escalier métallique. Cécé était dans l'exaltation. Enfin, il avait atteint l'Europe. Depuis longtemps, il appréhendait ce moment où le froid tant recommandé à Kinshasa allait le frapper au visage comme un cachet sur un passeport, attestant de son arrivée dans le Grand Nord. Mais lorsqu'une porte s'ouvrit à la nuit aux embruns du large, Cécé fut plus que surpris de la bouffée de chaleur qui l'enveloppa brusquement. Il n'eut pas le temps de penser davantage car Farès, au pas de course, le dirigeait vers une rambarde enjambée d'où pendait une échelle de corde descendant mollement vers les flots. Cécé eut une hésitation. « C'est quoi ? Descends ! C'est pas le moment de poser des questions, les gardes-côtes sont pas les... » Mais Cécé fut interrompu net. Farès, d'une bourrade, venait de le faire chuter dans un canot pneumatique aussi flétri qu'un ballon de baudruche après une nuit de fête agitée. « Prends le bout de bois là !» « Tu sais ce qu'il te reste à faire » cria-t-il pour découvrir le fracas des vagues, prenant d'assaut les flancs du sardinier. Et le type tira sur un bout de ficelle qui libéra le minuscule esquif. L'espèce de piscine pour bébé tanguait dangereusement d'un bord à l'autre. « Et !» couina Cécé. Une pagaie était posée sur le fond en toile. Désespérément, le jeune homme se mit à manier l'ustensile de part et d'autre du canot, tentant de garder une trajectoire. La lune éclairait d'une lumière timide ce que Cécé devina être une crique. Difficilement, il accosta sur une plage de galets. Un chemin rocailleux remontait vers ce qu'il espérait être une route. Il marcha dans l'obscurité sans savoir jusqu'au moment où la vérité se révéla à lui. Il n'était pas à Deauville, encore moins en Normandie, comme on le lui avait promis, mais toujours en Afrique. En l'occurrence, quelque part sur une côte du royaume chérifien.
Merci, Jean Bofane.
Voilà.
Et d'ailleurs... On va apprendre un peu plus loin dans le roman comment il s'est retrouvé au Sénégal. Parce que voilà, il part de Kinshasa et puis il y a tout un voyage de migration intra-africaine.
Mais il y a un détail, ce qui est marrant, c'est que quand je vous disais, j'ai essayé de capter les choses d'abord sans y aller. Et ce truc du mec qu'on dit « je t'emmène à Deauville, puis tu le jettes quelques centaines de kilomètres, ou une centaine de quelques centaines de kilomètres plus loin », on m'a dit qu'au Maroc, il y a des mecs qui le faisaient, qui vous embarquaient. Écoute, tu vas en aller, puis on te fait faire, la nuit, on te fait tourner autour d'un endroit, et puis on te ramène. Donc voilà, la chose existe.
Je confirme.
Mais justement, Myriam Alaoui, cette question de l'émigration, clandestine ou non, elle est présente dans votre roman, hein, puisque le mari de Jmia, c'est celui d'ailleurs qui l'a contrainte à se prostituer au départ, est parti comme clandestin en Espagne.
Je pense que l'immigration, cette question d'immigration est présente dans toute l'Afrique. Hein. Tout le monde est là avec les yeux rivés sur la Méditerranée en espérant traverser un jour pour trouver une vie meilleure. Moi, quand j'ai quitté Casablanca, il n'y avait pas autant d'immigration subsaharienne qu'aujourd'hui. Donc, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et en fait, ce que je trouve intéressant, justement, par rapport à cette question, c'est que au Maroc, on est là, alors on regarde de l'autre côté de la Méditerranée, on voit le détroit de Gibraltar, on se dit, là, il faut que je traverse. Et donc, les jeunes passent des après-midi dans des cafés à fumer des joints en regardant l'Europe quand ils sont à Tanger. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est toutes ces personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui traversent, donc qui vivent quand même des expériences assez tragiques et très difficiles, et qui arrivent au Maroc, et puis qui se retrouvent à Casa, qui se disent ouais. Finalement, tu sais, c'est pas si mal que c'est ça.
Moi, on me disait même, grand frère, j'ai trouvé la démocratie. le gars venait de Libye, il s'est fait tanner là-bas. Et dès qu'il passe le Maroc, bon, les gens venaient chez. Parce que moi, j'ai quand même posé cette question de ce racisme entre arabes et noirs, oui, dont on parle beaucoup. Sur les réseaux sociaux, surtout. Parce que dans la réalité, il y a des cas très, très difficiles. Mais en général, ils m'ont dit que non, vieux grand frère, on est arrivé ici, les gens nous donnaient ils t'emmenaient chez lui parce qu'ils voyaient que tu étais démuni, ils te donnaient de quoi t'habiller si tu n'avais rien, ils te donnaient à manger, tu passes une ou deux ou trois avant de continuer ton chemin. Ils disent, on a trouvé la démocratie.
Alors justement, si on parle de démocratie ou d'absence de démocratie, votre personnage s'appelle Cécé à cause de Mobutu Sese Seko, parce que son père était un fervent partisan de Mobutu. Mobutu et le jour où Mobutu à la télévision a fait croire qu'il quittait le pouvoir, c'était absolument une feinte. Son père était tellement triste qu'il a baptisé son nourrisson.
Ce gamin a grandi dans le culte de Mobutu, donc pour lui, son maître à penser, c'est Mobutu. Ça dit quand il a un problème, il regarde le ciel et il dit, viens, tu as vu ce qu'ils m'ont fait là-bas? Et puis il explique, et puis voilà, on parle des anciennes politiques de Mobutu sur les rapports aussi entre l'Afrique noire et l'Afrique et le Maghreb ou le nord de l'Afrique. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que
Mobutu était un ami du Maroc, un ami de Hassan II, donc il y avait des liens.
Il est enterré là-bas aussi, hein, faut le savoir. Parce que vous savez, tous ces dictateurs, ils font les malins, mais dès qu'ils sont plus au pouvoir, il n'y a plus personne qui les reçoit. Ils demandent des visas partout, et la seule personne à lui avoir dit « écoute, viens chez moi », ça a été Hassan. Et Hassan II, il est enterré au cimetière chrétien de Rabat. Et ils ont toujours été frères depuis toujours. Il y avait des preuves aussi dans le livre que je rappelle. Au temps de la guerre avec la Libye, il y avait des soldats libyens qui avaient été prisonniers par les soldats congolais, parce que les soldats congolais, avec la Légion étrangère, etc., participaient à la guerre pour rétablir Issenabré. Et donc, il y avait des soldats congolais, des soldats libyens prisonniers à Kinshasa, moi je les voyais, on les avait logés pas loin de chez moi, et ils étaient accompagnés de soldats marocains, et Hassan II était chargé parce que Kadhafi n'aimait pas les prisonniers de guerre. Pour lui, un type à prison de guerre, c'était un traître qu'il fallait abattre dès qu'il revenait en Libye. Et c'est Hassan II qui a fait des bons offices pour que ces hommes-là ne soient pas tués par Kadhafi. Donc c'est lui qui les a rendus à Kadhafi, on les a donnés au Maroc, lui les a rendus à Kadhafi, mais avec des garanties. Avec des gens qui allaient les voir tous les 6 mois, s'ils étaient toujours vivants, etc. Et ça, c'est les rapports du Maroc et du Congo. Mais les relations sont là, malgré ce qu'on croit. On divise pour mieux régner, hein, vous savez. Mais les relations sont réellement là, et je le rappelle.
Myriam Alaoui, votre roman se passe entre 2010 et 2018. Il est construit sous forme peut-être d'un journal, hein, enfin, un journal intime de Jmia. Et il va y avoir cette rencontre avec cette réalisatrice, alors marocaine, mais qui vit en Hollande. Et là, c'est vraiment le choc de deux mondes, en fait, hein, qui se produit, de deux modèles de féminité. L'une a grandi à l'étranger. Donc Jmia, quand elle la voit, elle se dit, oh là là, mais elle est moche, elle s'habille mal. Enfin voilà, et puis voilà, il y a quand même ces deux mondes qui vont s'interpénétrer. C'était ça aussi l'un des enjeux du livre.
L'un des enjeux, je ne sais pas, mais enfin, c'était intéressant pour moi de traiter les choses sous cet angle, parce qu'effectivement, il y a un choc des cultures. Et en fait, le choc des cultures, tu le disais un peu tout à l'heure, mais on aurait pu être avec une Marocaine du Maroc, mais qui vit dans un quartier huppé, qui aurait eu peut-être exactement le même regard sur Jmia qu'une Occidentale. C'était intéressant d'avoir ce choc des cultures-là et de voir les choses de la perspective de Jmia, parce que voilà, il y a des trucs qu'elle comprend absolument pas et qui donnent parfois lieu à des situations assez cocasses. Voilà.
Pourquoi cette période temporelle particulière? Parce qu'on voit bien qu'à un moment, dans le quotidien de Jmia, s'invite une actualité brûlante. Hein, c'est le moment des printemps arabes. Vous citez l'immolation du jeune Tunisien. Vous citez l'attentat de la place Jemaa el Fna. Enfin, voilà, tout ça va arriver dans le quotidien de Jmia.
C'est une pure coïncidence. En fait, le livre commence à Casablanca vendredi 11 juin 2010. C'est le jour où j'ai commencé à écrire ce livre. Donc voilà, un jour, je me suis promenée dans le quartier et en remontant chez moi, je me suis rien dit du tout. Je me suis assise et j'ai écrit. Et j'ai commencé à écrire. Et donc, après, quand j'ai poursuivi l'écriture quand je l'ai reprise. Parce qu'il s'est passé 2 ans entre le moment où j'ai commencé où j'ai écrit les 20 premières pages et le moment où j'ai réellement commencé à travailler dessus. C'était déjà daté de cette époque. Et puis, comme dans le quartier où est Jmia, il y a pas mal de manifestations. Donc c'est là où il y avait justement tous ces rassemblements du 11 février, par exemple, le printemps arabe, etc. Ben, elle a simplement été témoin de ça. C'est une coïncidence, il n'y avait pas de message derrière.
Jean-Bouffat, la politique est bel et bien là aussi dans votre livre. Hein. Vous citez par exemple l'affaire de Nicolas Sarkozy avec la Libye. Enfin voilà, il y a des références à l'actualité.
Des références, mais moi je me dis toujours que quand on parle de tous ces quelque part ces gens de ces territoires périphériques que sont l'Afrique, enfin qu'on imagine périphériques que sont l'Afrique. Chez nous, la politique est beaucoup plus. Quand une femme comme Jmia se réveille le matin, elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Et c'est dans le système politique que ça ne va pas. Un petit enfant comme ça au Congo qui ne mange pas tous les jours, il va regarder Kabila. Il sait que c'est là que ça se passe. Ils sont conscients, donc on est toujours très politisés, même si forcément que les révoltes, que ce soit celle de Tunisie ou de la place Tahrir plus tard, vont la toucher. Forcément. Et vont la toucher elle parce qu'elle c'est elle qui sera le, comme on dit chez nous, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui morfle, quoi. C'est l'herbe qui encaisse. Et voilà, c'est un peu ça. Donc on est obligé de rester conscient. Et bon, chez moi, la politique, elle est là, omniprésente, tout le temps. Tout le temps. Parce que voilà, et j'aime beaucoup, enfin, je suis dans le 21e siècle. Malgré mon âge, j'ai commencé à écrire mon premier roman, il est sorti au 21e. Donc je suis un des écrivains du 21e siècle, et ce siècle m'intéresse, et c'est justement ces tiraillements politiques, ces équilibres politiques qui bougent les choses.
Cette situation de votre narrateur, cette situation de clandestin, vous l'avez connue?
Ouais, je suis resté, parce que
à
Bruxelles, je suis resté des années sans papier, 5 ans. J'étais venu avec un visa d'un mois, mais mes enfants étaient déjà en Belgique avant. Parce que quand il y a eu les pillages de Kinshasa en 91, je les ai envoyés en Belgique. Par hasard, ma mère qui habitait en Belgique, moi j'habitais au Congo. Moi je venais en Belgique, je repartais, et puis là j'étais au Congo. Elle vient me voir. Moi je voulais pas venir en Europe, je n'aimais plus l'Europe. Je mettrais plus jamais les pieds en Europe, pour vous dire. Et je suis quand même là. Je connaissais, et je dis jamais. Hein. Et donc c'est elle qui venait me voir à Kin, puis il y a eu les pillages de Kinshasa, donc les pillages, c'est l'armée qui... Ça dit quand vous criez un peu trop démocratie, le président vous envoie l'armée, quoi. Et ça a duré 3 jours, ils ont cassé l'économie du Zaïre à l'époque en 3 jours. Ils ont tout détruit, ça tire partout, ça rentre dans les maisons, ça pille. Et donc, et puis la Légion est arrivée pour sortir les étrangers de la ville, parce que c'était état de guerre, hein, ça. Donc ma mère est repartie avec la Légion et mes enfants. Donc 2 ans et demi après, je devais les suivre, j'arrive ici, j'ai pas de papier, j'ai un visa, et puis je suis resté 5 ans avant d'avoir des papiers, alors que j'avais déjà vécu en Europe, et pendant que j'avais pas de papier, donc je pouvais pas travailler, donc j'ai fait des boulots un peu bizarres, j'étais videur de boîte pendant 5 ans, j'étais un costaud, un de ces costauds que vous voyez dans les boîtes là, j'ai fait ça pendant 5 ans, et j'essayais d'écrire. Et c'est là que je testais mes textes, je testais ça sur certains clients à 6h du mat. Quand le mec, il sort, ils sont KO, je prenais mes textes, je dis, toi, viens ici. Bon, je suis le videur. Quand le videur dit, viens ici, tu viens. Et quand il te dit, lis, tu lis. Et c'est comme ça, je voulais voir si je savais écrire, je leur filais mes textes. Et tu vois, le mec, qui commence à lire, puis, oh putain, oh merde. Oh. Je dis, ok, c'est bon, prends. J'ai testé, et pas sur des intellos, hein, je cherchais le mec qui lit jamais, quoi. Il est ouvrier quelque part, voilà. Et c'est comme ça que j'ai testé pour savoir si je pouvais faire face aux éditeurs.
Myriam Alaoui, c'est votre premier roman. Vous avez aussi testé votre écriture sur des cobayes.
Oui, sur des prostituées. Non, j'ai fait une tentative qui m'a totalement découragée. En fait, mon mari est journaliste et éditorialiste, et il écrit très très bien, il a une très belle plume. Et après avoir écrit les 20 premières pages, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être les soumettre à quelqu'un, j'avais envie de partager. Et puis j'étais là, je me suis dit, bon, bah, je vais les lui donner à lire et je vais voir ce qu'il en pense. Alors, vous imaginez, j'étais dans un état de stress total. Je me disais, oh là là, mon Dieu, comment est-ce qu'il va prendre ça? Et puis j'attendais, et puis il voulait que je reste à côté de lui pendant qu'il lisait. Donc il lisait, moi j'étais là, mon Dieu, quelle horreur. Et il a lu ses 20 premières pages et il s'est arrêté. Il m'a dit, oh, j'adore, j'aime beaucoup ce que tu as fait, ça me plaît. Et puis voilà, il est parti dans un commentaire de texte à n'en plus finir. Ça m'a totalement bloquée. Et en fait, après, oui, ça m'a bloqué parce que je me suis dit, oh mon Dieu, ça m'a mis la pression en fait pour la suite. Et bon, il se trouve que par ailleurs, j'étais occupée à l'époque, je dirigeais quand même 3 entreprises en même temps au Maroc. Et j'ai interrompu l'écriture du livre. Donc c'est la seule fois où j'ai fait une tentative de lecture en dehors de l'éditeur, de partage en tout cas.
En fait, on le disait, ce roman tient d'abord sur la langue, mais vous réussissez ensuite à injecter des rebondissements qui font qu'on est complètement happé par cette histoire. Alors, pour parler de ces rebondissements, donc il y a d'abord cette rencontre avec la fameuse bouche de cheval, et puis à un moment, Jimia va avoir un accident, elle va se faire renverser par une moto, et elle va devoir rester alitée pendant quelques temps, pendant un temps assez long, et là, sa vie va basculer.
Oui.
Oui. Mais c'est aussi l'itinéraire de quelqu'un qui change, qui évolue. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est pas la belle histoire de la prostituée qui va s'en sortir. Alors, enfin, surtout pas grâce à l'amour. Mais voilà, mais elle change quand même au long du roman par une série de petits événements comme ça.
C'est vrai qu'elle est dans le mouvement, mais je pense aussi que c'est la ville de Casablanca qui imprime ce mouvement. On est surtout quand on est dans des milieux comme ça où vraiment voilà, c'est on est dans de l'économie parallèle, on se débrouille, on a une petite entreprise, on vend des trucs comme ça, des étals. On a un petit étal qui est en fait une natte qu'on ramasse sur le trottoir.
Ligablo, on appelle ça au Congo.
Ligablo. et donc, quand on est dans ce type de vie-là, bah forcément, il y a énormément de mouvements parce que là, elle se fait renverser par une moto. C'est un truc tout à fait normal à Casablanca. D'ailleurs, il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Jean où il décrit l'anarchie totale qui règne dans les rues de Casa quand on conduit, et cette anarchie dans cette anarchie il y a un semblant d'ordre en fait, un espèce
de chaos. Tout le monde est dans le bordel en même temps, mais il faut que tout le monde soit dans le bordel en même temps pour que toute la synchronicité puisse se passer.
C'est exactement ça, et donc là-dedans forcément il y a du mouvement et il se passe des trucs.
Et par exemple, il y a aussi une scène dans la rue où on voit des jeunes sur des grosses cylindrées comme ça, ils soulèvent leur vélo, enfin leur moto, et ils sont en train de rouler, mais parce que moi je suis en voiture, je suis dans une voiture là, un taxi, et je vois ça en pleine nuit. Dans n'importe quel pays civilisé, quand ça se passe, tout le monde va klaxonner, ils vont dire, mais ils sont fous. Et là, ils étaient combien? Ils étaient 6, 8. Mais ça dit, tout le monde, tous les conducteurs vont leur laisser la place. Ah ouais, c'était merveilleux, parce que les mecs pouvaient faire leur truc sans casque, hein, je dis bien. Le chauffeur me dit, mais c'est des jeunes. Et on leur laisse la place de faire leur fantasia. En fait, moi, j'appelle ça une fantasia moderne, avec sur des gros cylindres, que ce soit sur la cheval. Mais c'est ça, là, c'est ça qu'elles ont, en fait.
Mais ça me rappelle aussi un truc, dans la même lignée. En fait, à Casa, on peut être arrêté à un feu rouge, par exemple, tourner la tête comme ça à droite et voir un mec dans une calèche, debout, torse nu, avec un foulard.
Voilà.
En train de dire, allez, vas-y, avance. Voilà. Et puis qui brûle le feu, c'est tout à fait klaxons. Normal.
Et les klaxons, vous entendez des klaxons tout le temps. Mais là-bas, c'est le klaxon quand vous ferez à Paris ou à Bruxelles, tu m'emmerdes. Non, c'est je suis là. le début est derrière. Il se signale, c'est pas grave, il y a personne qui s'énerve, mais le blason se pose déjà celui-là, et puis bon, là tu voilà, et c'est super.
Ou alors en parlant de klaxon, donc voilà, il y a un feu, et il est de coutume à Casablanca de s'arrêter après le feu. Donc on sait pas ce qui se passe derrière, mais c'est pas grave. Et donc un jour je m'arrête après le feu en mode casablancaise et ma copine occidentale me dit mais voilà, tu vas rien voir. Je dis non mais c'est pas grave, on va klaxonner, je saurai qui va lancer.
Voilà.
Mais il y a des choses dans vos deux livres, en effet, comme celle que vous venez de raconter, très spectaculaires. Et puis on a l'impression que certaines choses sont très souterraines et que seul un œil aguerri peut remarquer toutes ces petites madigans, tous ces petits trafics. Il y a toute une économie souterraine, des liens souterrains entre les gens.
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Casablanca, qui est une ville qu'il faut vraiment découvrir de l'intérieur. Avec l'habitant, c'est pas une ville dans laquelle on va en touriste, non, en se disant ouais, je vais voir des trucs extraordinaires, on voit rien du tout.
Rien, il y a rien. Vous aurez l'impression qu'il se passe rien. Ouais. Voilà. Mais c'est quand vous rentrez dans le tissu de la ville que vous pouvez vraiment l'apercevoir, la sentir, comment elle vit, parce que bon, moi je suis pas de Casa, j'ai pas été des mois à Casa, j'ai été des semaines à Casa, mais elle s'est quand même imprégnée en moi. Malgré que le touriste verra, oui, c'était pas mal, c'est tout.
Sans plus, voilà, sans c'est plus. Ce que je dirais. Mais après, c'est aussi une ville qui est aussi facile à appréhender. Il suffit d'aller se mettre à une terrasse de café dans un quartier où il y a du passage, y passer 5 heures et voir un nombre hallucinant de choses totalement farfelues que tout le monde trouve absolument normales.
Normal.
C'est... Jean Bofan, un thème fort de ce roman, La Belle de Casa, c'est aussi la quête du père, hein, puisque je disais tout à l'heure, Ishraq ne connaît pas l'identité de son père. Elle a été élevée par sa mère qui est un peu folle, un peu sorcière, un peu voyante. Enfin voilà, on ne sait pas très bien. Et il y a une chose très frappante, c'est que Ishraq, tout au long du livre, écoute sur son téléphone portable un texte, un roman de Kaoutar Archi qui s'appelle, publié chez Actes Sud également, à l'origine Notre Père Obscur.
Oui, mais ce roman accompagne mon texte du début à la fin. Parce que évidemment, moi, justement, dans la fêlure de Ishraq, c'est quoi? C'est justement cette absence de père. Et elle a été élevée par sa mère seule. Et la place des enfants sans père ou des orphelins au Maroc n'est pas simple du tout. Elle n'est pas simple. Moi, j'ai un ami congolais qui habite à Casa. Lui, il habite à Sbata. Et son épouse, elle est travaillée dans un orphelinat. Elle a quitté l'orphelinat il y a 15 ans. Elle est partie avec un bébé là-bas. Elle a adopté un enfant. Cet enfant, aujourd'hui, a 15 ans, un petit garçon. Et mon ami l'élève, mais la grand-mère de la dame habite, la famille habite dans le quartier en fait. Mais cet enfant n'existe plus pour eux. On l'a mis là parce que c'est un enfant de la honte. Voilà, on les met dans des orphelinats, on les cache. Et parfois la mère vient visiter mon ami, mais la grand-mère passe devant l'enfant sans regarder l'enfant. Et l'enfant sait très bien, ça c'est ma grand-mère. Et c'est assez. Donc voilà, ses enfants n'existent pas. Donc Ishraq a vécu là-dessus, a vécu là-dedans. Sa mère a dû supporter cette situation. Et donc c'est très difficile. Elle a dû survivre aussi. On ne sait pas comment vraiment elle a vécu. Oui, elle a dit ses petits trucs. Elle est voyante. Elle est... Et puis il y a Ishraq qui est là, mais elle est rebelle. Elle est belle, elle est rebelle. Mais elle a ce problème-là qu'il a travaillé du matin au soir, l'absence du père. C'est quelque chose de. Voilà, c'est. C'est un stigmate immense. Et le texte de Kaoutar Archi, à l'origine du Père Obscur, parle de cela.
Et ça parle de l'enfermement des femmes aussi.
Oui, de l'enfermement des femmes aussi. Mais ce livre, j'ai découvert par hasard. Kaoutar Archi, j'ai d'abord découvert l'ampleur du saccage chez Actes Sud. Quand je parlais, j'étais à Arles, je parle de tiens, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis le Maroc. Et on me sort ce roman de Kaoutar Archi qui venait de sortir, L'ampleur du saccage. Je lis. Et je suis subjugué par l'écriture de cette jeune femme, et très sensible et très belle écriture. Et surtout, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'était qu'elle était très jeune. À l'époque, elle n'avait même pas 30 ans. Elle avait 28, 29 ans, quelque chose comme ça. Elle n'avait pas 30 ans, mais elle pouvait vous décrire des états d'âme d'hommes de mon âge. Donc ça m'a frappé très fort. Et alors, la fille, elle est née à Strasbourg, je crois, elle est marocaine, mais voilà. Donc mais elle parvenait à décrire des hommes algériens comme ça, de façon très forte. Et puis il y a eu après « À l'origine du Père obscur », et quand ce livre est sorti, en le lisant, moi j'avais déjà commencé à écrire mon texte, et donc j'avais l'impression que ce texte avait été écrit spécialement pour moi. Et je me suis emparé de ce texte, et j'avais besoin de ce texte justement pour donner de l'air à Ishraq. Parce que Ishraq est tout le temps dans ce... Elle parle pas beaucoup, Ishraq. J'ai des personnages comme ça, Cécé, il parle beaucoup. Mon personnage dans Issa Okanga, dans Congo INC, parle beaucoup. Mais Ishraq parle peu. Comme Célio Mathématique, dans mon premier roman, il parle peu, sauf quand il délire sur ses mathématiques. Et Ishraq parle pas beaucoup, donc c'est une grande pression, quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui reste dans le silence, qui reste dans la souffrance. Et j'étais obligé de lui donner un... À un moment donné, la première fois que Cécé, parce que la première fois qu'il croise Ishraq, c'est parce qu'elle est en train d'écouter le texte par MP3 avec des écouteurs, et elle est en train de le psalmodier, comme ça, le texte. Et Cécé entend ce texte. Et il a l'impression d'être quoi? Sur un tapis magique, un tapis volant, comme on dit. Et c'était ça, j'avais besoin d'un tapis volant pour la souffrance. À un moment donné, elle devait décoller, quoi. Et puis alors, bon, obligé de revenir sur Terre, revenir à Gaza, et trouver, faire ses petits commerces informels pour vivre. Mais elle a besoin de cela. Et cette respiration, c'est le texte de Kaoutar. Et en fait, c'est mon éditrice Marie Demeure, à la fin, elle dit, mais écoute, quand j'amène le manuscrit, elle me fait, mais il y a quelques mois, là, elle me fait, mais est-ce que tu as posé la question à Kaoutar? Moi, je ne connais pas Kaoutar. Je l'ai félicité pour un roman ou quoi, pour son roman. Et je, voilà, c'est tout, sur Facebook en plus, donc quelque chose de bref. Puis un jour, elle m'a invité à la Sorbonne pour une conférence, mais j'étais pas bien, j'ai pas pu aller, je me suis excusé, elle m'a même pas répondu. Là, j'étais en train de terminer ceci, en fait. J'étais en train de terminer, j'étais à la fin ici et je pouvais plus, j'étais un peu submergé de travail. J'ai écouté, je peux pas venir, donc elle m'a haï, elle m'a même pas répondu, quoi. Et puis le livre est sorti, je dis, ouais, c'est vrai, Kaoutar, on s'est jamais vu, jusqu'aujourd'hui, je l'ai toujours pas vu, Kaoutar. Mais elle m'a donné sa permission et puis je lui ai envoyé le contexte des insertions et elle-même n'a pas reconnu son texte. D'après, elle m'a dit, ça l'a bouleversé. Parce que c'était juste ça. C'est l'harmonie parfaite, quoi.
Myriam Alaoui, dans votre livre, il est moins question de père, mais il est beaucoup question de mère. Il y a cette relation très forte entre Jmia et sa mère, Moui, alors qui ignore absolument tout de son activité réelle, qui a une morale absolument droite, irréprochable. Et qui s'occupe aussi de la fille de Jmia. C'est très beau, cette relation mère-fille.
Bah je pense qu'au Maroc, déjà, et dans pas mal de pays, ce sont les femmes qui sont en charge de l'éducation des enfants. Et au Maroc en particulier, il y a ce lien très fort entre la mère et son fils, mais la mère et sa fille. Ce sont deux liens différents, mais ils sont tous les deux extrêmement forts. Et donc, une mère, donc la mère de Jmia, est proche de sa fille, elle est là pour la guider, elle est là pour la remettre sur le droit chemin, elle est là pour la surveiller, elle est là pour en faire une bonne future épouse, mère, etc. Donc elle est elle est omniprésente. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de mères au Maroc. Voilà, elles ont une fille, leur fille. Et d'ailleurs, il y a une phrase qu'on dit communément. Donc, quand une femme est enceinte, on lui dit « Oui, alors, est-ce que tu as un garçon ?»« Ok, tu as un garçon, c'est bien, félicitations. Bon, bah, c'est le fils de son père, etc. » Et quand elle est enceinte d'une fille, on lui dit « Ah, bah, tu vas avoir un enfant pour toi. » Et en fait, la fille appartient à la mère. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a ce lien fort. Et ensuite, lorsque Moui reprend Samia, donc la fille de Jmia, elle s'occupe de sa petite fille comme il est d'usage de le faire. En fait, il est très fréquent que les parents confient leurs enfants aux grands-parents pour et qui sont en charge de les élever, de les éduquer, de tout faire pour eux, quoi.
Il y a beaucoup d'histoires de femmes, et il y a aussi une très belle relation d'amitié entre Jmia et Samira, hein, sa copine prostituée. Alors, toutes les prostituées du quartier ne sont pas ses copines. Hein, il y a des tensions, il y a des frictions, mais cette relation-là est vraiment très belle, notamment au moment où elle a son accident et Samira, presque en la protégeant du geste généreux qu'elle fait, va tout faire pour que sa copine s'en sorte.
C'est ça, mais en fait, c'est une amitié qu'elles découvrent au fur et à mesure qu'elles l'approfondissent. En fait, elles sont amies, elles partagent le même trottoir. Alors, effectivement, il y a des amitiés et d'autres inimitiés, mais elles savent pas, elles se rendent pas compte à quel point elles sont amies jusqu'au moment où, justement, il y a des difficultés et que Jmira fait son accident, qu'elle a besoin de, voilà, qu'elle a besoin d'argent, qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui fasse à manger, alors qu'elle est diminuée. Et donc, oui, elles se rendent compte, en même temps qu'elles l'approfondissent, elles se rendent compte qu'elles ont un lien fort.
Jean Beaufin, la relation qui se noue entre Ishraq et Cécé est absolument singulière. Alors ils ont besoin de l'un de l'autre. Oui. Ça commence par de la séduction, oui. Mais ça va ailleurs. Enfin, c'est très beau.
Oui, mais ça part tout de suite vers l'amour, quoi. Mais l'amitié dans le sens amical, c'est vraiment ils s'aiment beaucoup. Et lui, et au départ, c'est la parce que Ishraq est très belle. Elle a un corps, elle est pulpeuse, donc lui, il adore ça. Mais ça part très vite, et puis il y a le texte qui l'emporte d'abord, et puis à un moment donné ils sont dans le réel amour, quoi. Il y a plus de concupiscence, il y a plus rien, ils sont devenus comme un peu comme à un moment donné, je dis presque comme frères et sœurs, voilà.
Et puis enfin quand même ils partagent des intérêts,
ah ouais, hein, mais
parce
ils ont
que,
des
ah,
intérêts,
ces combines absolument formidables, oui. que monde Cécé sur
parce
internet
que Cécé, faut savoir que Cécé, il a comme profession, il est brouteur. Je sais pas si en France ça existe, les brouteurs. En Côte d'Ivoire, les brouteurs, c'est des cyberséducteurs sur Internet. C'est des cyberséducteurs. Ils chattent avec des femmes européennes. Alors, ils reçoivent 100 balles là, 200 là. Ils sont beaucoup d'argent. Ils en ont 100, ils en ont 1000 comme ça, des amoureuses, entre guillemets. Et ils leur prennent de l'argent. Ils sont beaucoup d'argent. Ils sont très jeunes, hein, des 20 ans ou même moins de 20 ans même. C'est vraiment des gamins, des sales gamins, quoi. Et donc, Cécé, il fait ça au Maroc. Il drague des femmes blanches là. Et bon, c'est pas facile. Et à un moment donné, il associe Ishraq là-dedans. Mais voilà, Ishraq doit rien faire, il n'a qu'à apparaître à l'écran et tous les hommes deviennent fous d'elle, quoi. Ouais, c'est ça, mais voilà.
Et puis après, il va faire chanter la famille.
Oui, il fait chanter les Européens. Oui, ouais, voilà. Qui fait des conneries devant son écran, le Snapchat, voilà. Et chantage, quoi.
Mais alors, il y a une scène aussi un peu comme ça dans votre livre, Myriam Mahu. Alors, c'est traité sur un mode un peu plus tragique. Hein. C'est Halima, je crois, l'une des prostituées que côtoie Jmia au début du livre, hein, qui va basculer dans l'islam radical. Mais au fond, elle raconte comment elle est devenue prostituée. Et c'est parce que son mari l'a répudiée, parce qu'elle a été victime d'un type comme ça sur Internet.
Oui,
enfin, sa vie, au fond.
Halima, ouais, c'est un dérapage, en fait. C'est une dame qui a une vie tout à fait normale et puis qui se retrouve, justement, qui rencontre quelqu'un, un brouteur, et qui se fait avoir finalement par lui et qui ne se rend pas compte, en fait, que ce qu'elle fait derrière son écran, c'est
réel,
pas déconnecté.
Quoi.
Voilà, c'est pas déconnecté
de la réalité,
c'est la réalité. Donc, ouais, elle a beau être chez elle derrière son écran, c'est bien réel et ça peut se retourner contre elle.
Ouais. Et puis, avec ce personnage qui va disparaître et puis qu'on va retrouver à un moment à un coin de rue, vous abordez aussi la question de l'islam radical et de ces femmes ou de ces hommes, d'ailleurs, qui basculent et qui suivent un imam plus ou moins douteux.
C'est-à-dire la manière avec laquelle Halima va basculer, on le voit bien, en fait. Elle a, comme je pense n'importe quelle personne qui rallie un mouvement intégriste ou extrémiste, elle a une blessure qui fait qu'elle va chercher quelque chose dans cette communauté, dans cette religion. C'est ça, elle va aller chercher quelque chose. Et donc, en fait, au final, il n'y a pas d'intégrisme à proprement parler, il n'y a que la somme de blessures individuelles ou d'histoires individuelles qui font qu'au final on se retrouve là-dedans. Donc, moi quand j'entends c'est un mouvement, oui, c'est un mouvement effectivement, mais c'est vraiment très, très personnel, en fait, la raison. Et là, par exemple, en l'occurrence, en ce qui concerne Halima, elle cherche la rédemption.
Vous voulez réagir à ça ou...
Oui, mais c'est les destins. On me dit toujours que voilà, vos personnages sont très peu manichéens, c'est jamais, c'est vrai, ils sont toujours très nuancés comme ça, parce que c'est, en général, on a des jugements catégoriques sur les gens. Oui, ils rentrent dans l'islam parce que moi j'ai un fils qui, il y a quelques années, un peu avant les attentats et tout, deux ans, trois ans avant les attentats, le gamin, aujourd'hui, il a quel âge? Il doit avoir 26 ans, je crois. Enfin, je sais pas, je compte jamais. Quand on aime, on compte pas.
Comme on dirait au Maroc, il n'y a que le pauvre qui compte.
Et bon, le petit est devenu musulman et tout le monde me posait la question, mais il va pas partir en Libye quand même. Je dis, mais moi, je connais plein de musulmans qui ne partent pas en Libye. Mais voilà, ceux qui partaient là-bas, c'est parce qu'ils avaient des blessures. Ce sont des parcours. Ce sont des parcours. Et beaucoup étaient nés après le 11 septembre. Et depuis le 11 septembre, je ne sais pas ce qu'on a entendu de beau sur la terre. Il n'y a eu que du désespoir et du langage dur. Voilà, donc...
Il y a un autre thème alors, qui est très présent dans votre livre, Jean Bofane, et puis un petit peu, on pourrait dire, par en dessous dans le vôtre, Myriam Lahoud, c'est la corruption. Hein. Enfin, il y a des personnages de flics véreux, notamment.
Mais oui, voilà, ça c'est... Enfin, voilà, ça c'est ils sont là, ils vivent parmi nous, ils se servent un peu, ils se servent sur la bête. En général, ils ne sont pas bien payés et tout, donc...
Oui, et puis je pense aussi que chez moi, c'est pas en filigrane la corruption, c'est présent tous les jours parce qu'en fait,
c'est cash quoi.
C'est normal, elle est prostituée, voilà. Donc forcément,
faut s'arranger avec la police.
Le tenant du bar, le propriétaire du bar s'arrange avec la police. Au Maroc, il est interdit de vendre de l'alcool à des musulmans. Tout le monde boit.
Et on en trouve.
Non, mais c'est pas qu'on en trouve, c'est que les bars sont pleins de Marocains, hein, sont pas pleins de. Voilà. et donc forcément, la corruption est partie intégrante du quotidien. Donc, mais c'est pas un truc que les gens condamnent à longueur de journée. Voilà, ça fait partie de la donne. Voilà. Donc voilà.
Et pour, certains abusent de leur pouvoir, comme dans La Belle, y a un commissaire, hein, ils abusent de leur pouvoir, quoi. C'est des chacals, voilà.
Mais rien à vous, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut raconter ce qui va se passer dans ce roman, parce que la fin est complètement rocambolesque, mais en tout cas il y a cette peinture du milieu du cinéma racontée de l'intérieur avec la gouaille de Jmia, et là ce sont des scènes de pure comédie, hein. c'est vraiment très très réjouissant.
Je me suis beaucoup amusée à les écrire. En fait, j'ai travaillé il y a une vingtaine d'années de cela dans une maison de production, et j'ai travaillé sur des tournages, et puis bon, moi de l'extérieur, enfin déjà je me sentais pas spécialement de ce monde, et je le suis pas plus aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était particulier en fait pour moi de voir ces gens évoluer aussi, je sais pas, j'avais enregistré un certain nombre d'informations, et puis en me mettant dans la tête de Jmia, j'ai vu ce monde à travers ses yeux, et c'est vrai qu'il est totalement incompréhensible.
Mais oui, c'est ça, parce que en fait on suppose que le film que va tourner Bouche de Cheval, c'est un film un peu d'auteur avec une base documentaire très sérieuse, et puis Jmia, elle dit mais enfin ça va nous ennuyer, mais pourquoi les gens vont au cinéma, ils vont pas au cinéma pour voir ce qu'ils voient tous les jours dans la rue, ils veulent rêver, enfin voilà, c'est deux visions du monde complètement opposées.
Complètement, parce que Jmia a une passion dans la vie, c'est la telenovela. Donc elle adore les feuilletons mexicains, elle aime aussi un peu les feuilletons turcs, elle aime, je sais même plus ce qu'on fait, elle regarde aussi les films de Bollywood, mais voilà, c'est une vraie fan de cinéma, on va dire, populaire. Et donc voilà, pour elle, le cinéma, c'est pour aller voir de beaux costumes, des histoires d'amour, de la passion, des choses qu'elle voit pas. C'est pour rêver. Et donc effectivement, un film qui traite de prostitution, c'est pas très drôle, quoi. Pas très intéressant non plus.
Jean Bofane, il y a un autre personnage, alors plus symbolique dans votre livre, mais c'est le vent.
Ah ouais.
Ce vent qui rend fou.
Il y a le vent qui rend fou, le vent Cher Guy. J'ai mis en place ce vent parce que bon, il fallait plus de... Ça dit que l'histoire se déroule pendant quelques semaines, et je voulais mettre de la turbulence pendant quelques semaines pour justifier quelque part, pour provoquer tout ce drame qui doit se dérouler pendant quelques semaines à Casa, dans le quartier de Derb Talian et quartier Kouba. Et donc j'ai mis en place le vent, mais le vent seul, mais ce qu'il y a, c'est que le vent, le Cher Guy ne souffle pas vraiment très fort à Casa. Il souffle à Essaouira, à Tanger, donc au sud et au nord de Casa, mais pas fort à Casa. Donc moi, j'ai dû provoquer, et c'était bien pour moi en tant que romancier, parce qu'à ce moment-là, je pouvais créer quelque chose qui n'existait pas vraiment à Casa, c'est-à-dire faire souffler le Cher Guy beaucoup plus fort. Mais pour le faire souffler beaucoup plus fort, j'ai... Et puis j'avais besoin du Cher Guy aussi pour... Parce que le Cher Guy, c'est un vent, donc vous savez, il vient du Sahara, il remonte, et puis à un moment donné, il passe Gibraltar. Et quoi qu'on fasse, on ne peut pas l'empêcher de passer. Il va passer. Et puis quand il va passer, il va changer de nom, il va s'appeler Chiroko. Voilà, il change de nom, il devient Sirocco, là tout le monde l'admet, mais là-bas il s'appelle Chergui. Et donc il fallait le bloquer, comme on bloque les mouvements migratoires, comme on essaye de bloquer les mouvements migratoires. J'ai mis en place le réchauffement climatique qui est l'ennemi de nous tous, qui est notre ennemi à tous. Et donc j'ai créé une espèce de bataille dans la stratosphère et les courants marins, où Chergui tourne autour de Casa comme dans une turbine. Et voilà, c'est la guerre. C'est la guerre, mais ça se passe ailleurs que sur la Terre.
Et c'est ça. Et du coup, ça donne à votre roman qui a une base un peu réaliste, une dimension de fable.
Une dimension planétaire. C'est-à-dire que nos drames, moi j'aimerais bien le fait d'être écrivain congolais, d'habiter à Bruxelles, d'écrire sur le Maroc. Et voilà, c'est ça, toi. C'est la dimension planétaire. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, nos destins sont liés, quoi. C'est ça aussi. Et le réchauffement climatique est là pour nous le prouver. Aujourd'hui, on a des températures qui augmentent ici en Europe. Mais moi, mes amis de Kinshasa me disent que voilà, Kinshasa, aujourd'hui, il y avait 22 degrés. Ça n'existe pas, ça. Chez nous, c'est 28, 35. Quand on commence à avoir des 24 degrés, c'est qu'il y a un problème. Oui, parce que quand on parle changement climatique, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais il y aura des changements. Donc voilà. Et on est lié à ces choses-là. Et voilà, et c'est pour ça que je... Voilà. Donc il fallait ce phénomène-là en plus.
Il y a aussi beaucoup de changements dans la vie de Jmia. Je préfère peut-être laisser les lecteurs les découvrir. On ne va pas tout dévoiler. On est arrivé au bout de cette rencontre. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques de lecture pour ceux qui ont lu ? Non ? Oui, madame ? Oui. Oui, on vous propose un micro.
Merci. Bon, j'ai donc lu ce livre et passé le choc, je dis bien le choc des 20 premières pages, contrairement à votre mari, j'étais très surprise. Et après, c'est comme une drogue, on le lit jusqu'au bout. Et je vous dis qu'il y a des pépites dans votre livre, c'est génial, surtout quand elle va aux États-Unis pour la remise des prix.
N'en dites pas trop, madame.
Mais cette tenue, tenue extravagante, c'est extraordinaire.
Merci.
Et pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Ça m'interpelle.
Je n'ai pas choisi de l'écrire, il est sorti tout seul, vraiment. Je vivais dans ce quartier, donc au centre-ville de Casablanca, donc je me promenais beaucoup. J'étais fascinée par ces femmes, par ces prostituées qui travaillaient sur les marches du marché. Et donc je les suivais. Et en fait, je m'arrêtais pour écouter ce qu'elle disait. J'avais envie d'en savoir plus. Je posais des questions. Mais c'était vraiment par curiosité personnelle. Je n'avais pas du tout dans l'idée de faire un roman ou d'en tirer une histoire. J'avais envie de savoir. Parce que les Marocains sont très, très curieux. Ils se mêlent souvent de ce qui ne les regarde pas. J'ai juste rempli ma fonction, quoi. Et puis un jour, je me suis assise et c'est sorti. J'ai littéralement vomi ce texte. Écoutez, merci infiniment, merci.
Merci et je vous invite aussi à lire le livre de Jean Bofane, La Belle de Casa, paru chez Actes Sud. Et donc, Myriam Alaoui, La vérité sort de la bouche du cheval, c'est chez Gallimard, en collection blanche. Merci à tous, merci à tous les deux. Et une séance de dédicace est prévue par la librairie, voilà, juste à côté. Merci.